Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 40e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de discussion sérielle engagée, amusée, pleine de bonnes intentions et de mauvaise foi, par 4 critiques incorrigibles et incorruptibles. Pierre Langlais de Télérama, je serai votre MC aujourd'hui et je partage le micro avec Charlotte Blum d'OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Éric Bouche de Téléstar. Hello Éric.
Salut.
Et Romain Chéron de Télé Loisirs. Bonjour Romain.
Salut Pierre.
Au menu cette semaine, un rendez-vous institué l'an passé, sorte de session critique de rattrapage pour vous aider éventuellement à avoir des idées pour passer les fêtes devant vos écrans. Le principe est simple, 4 séries passées sous les radars, 4 œuvres méconnues, mal vendues ou mal vues, que nous allons vous présenter et dont nous allons débattre. De l'horreur avec Channel Zero No End House, de l'historique avec Alias Grace, de la comédie avec The Good Place et du français avec Manon 20 ans.
It's 6 rooms. Each one is scarier than the last. Most people don't even make it to the 6th room. The people who do? Never seen again.
Commençons par Tremblay avec une anthologie horrifique lancée l'an passé sur Sci-Fi. Ça s'appelle Channel Zero. La saison 2 intitulée No End House vient d'être diffusée sur Sci-Fi France. En son centre, une sorte de maison hantée qui confronte ceux qui la visitent à leurs souffrances intimes et passées. Pour raccourcir les choses, Charlotte, c'est ton choix. Comme disait Evelyne Thomas, on t'écoute.
Je ne sais pas du tout qui est cette Evelyne Thomas.
Sans blague.
Un ami à toi. Très bien. Alors, effectivement, comme tu le disais, Channel Zero... En son centre, il y a une sorte de maison hantée qui est en fait une œuvre d'art contemporain, créée par un maboule, je pense. Une immense maison qui recrute ses visiteurs sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de critiques de la société dans cette série. La première, c'est celle des réseaux sociaux, où on va t'appeler pour aller faire n'importe quoi, et tu vas y aller, évidemment. Ça s'adresse à des jeunes, à des ados, donc à des gens déjà torturés, qui vont devoir rentrer dans cette maison en groupe, s'y perdre seuls, et essayer d'en sortir en traversant 6 pièces, qui sont davantage dans la suggestion que dans l'horreur pure. Et quand nous, en tout cas, quand on sort de cette série, on est vraiment bien content d'en sortir. Ce qui est hyper bizarre de dire, c'est ma série préférée et j'étais bien contente quand elle est terminée, mais j'en pouvais plus.
L'avantage, c'est que comme c'est une anthologie, a priori, on sait que ça va finir.
Oui, alors c'est une anthologie. Là, c'est la saison 2. La première saison était déjà extraordinaire. En fait, le concept de cette série, c'est de raconter des légendes urbaines. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de cette maison avec les 6 pièces. Ce qui est très intéressant pour moi dans cette série, c'est que ça dépasse largement l'horreur. C'est vraiment plus des histoires de tension et de torture psychologique. C'est un labyrinthe psychologique, en fait, cette série.
On peut dire quand même la tension centrale, c'est pas spoiler, que de dire en gros ce qui tend les émotions du personnage principal.
C'est qu'elle va revoir des moments de sa vie. Et quand on dit revoir, en fait, elle va les ressentir, parce que nous, en tant que spectateurs, honnêtement, on ne sait jamais si elle les revoit, si elle les imagine, si c'est nous qui les imaginons. On est souvent perdu, en fait, dans cette série. Pour moi, c'est un test. C'est d'abord alors le test de savoir si tu as bien écouté ce qui s'est passé à 5 secondes. Et le test d'essayer de comprendre comment fonctionne l'héroïne. Donc, on a une héroïne qui est en deuil. Et c'est vraiment pas le moment d'aller faire cette maison, jeune fille, et ça ne va pas du tout, et qui va projeter son deuil sur cette maison. Je pense que je peux pas en dire plus,
oui,
que ça.
Ça me paraît être un bon résumé.
On disait souvent que The Leftovers était une belle étude du deuil et de la perte. Et là, je pense qu'on a un peu le nouveau Leftovers en termes d'études de ça. Ah, je vais loin.
Ouais, c'est très risqué. Alors, on a tous vu No End House autour de cette table, donc on a tous notre point de vue, on va le partager avec toi. Qui veut prendre la parole en premier? Romain, je crois que tu étais particulièrement enthousiaste, toi.
Hein. Oui, c'était la série que j'avais choisie à la base avant que Charlotte me vole. moi j'adore déjà l'année dernière avec Candle Cove. C'était mes 3 séries préférées de l'année. C'est encore le cas cette année avec No End House. Non, mais j'adore l'atmosphère singulière de la série. labyrinthe psychologique, cette torture psychologique même.
Auto-torture psychologique, si j'ose dire. Hein,
parce que oui, c'est ça.
Personne ne leur inflige. Hein. C'est une série où on s'inflige soi-même, finalement. On crée son propre cauchemar.
Disons qu'on... C'est toujours intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'horreur, parce qu'ils savent, qu'ils sont dans cet univers-là. Ils peuvent pas reculer. On est prêt à voir jusqu'où ils peuvent aller, en fait, justement.
Assez rapidement, ils réalisent, en tout cas, que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Que cette maison, et c'est là qu'on va faire attention à pas spoiler, mais que cette maison a une dimension supérieure à ce qu'on pensait. C'est un peu comme le TARDIS du Docteur Who. Elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que du coup, on peut s'y perdre pour de bon.
Mais même comme dans la saison 1 d'American Horror Story, je dirais qu'elle est vivante, cette maison. Mmh. Elle est plus vivante presque que les gens qui rentrent dedans.
C'est un des enjeux de la série, effectivement, savoir.
Elle est vraiment ancrée dans la réalité, c'est pas juste dans la tête, c'est vraiment. Elle existe.
Eric, t'en as pensé quoi, toi de...
Moi, je suis quand même un peu moins enthousiaste que mes confrères. Non, pour moi.
Mais justement, non, il peut plus sortir, il est rentré dedans, donc.
Couper son micro.
C'est un peu une fausse série d'horreur, en effet.
Ça fait pas, à proprement parler, hyper peur. Non, on est tous d'accord là-dessus.
Le premier épisode est quand même assez flippant, je trouve. Maintenant, c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu peur que ce soit trop esthétisant, que ce soit vraiment un peu comme Au-delà des murs, la série de Herpou et Anne-Marc, qui m'avait fait vraiment, vraiment chier, pour le coup. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un propos derrière. Donc, c'est assez déroutant. On sait jamais, en effet, sur quel pied danser. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop intellectuel pour moi. Moi, il me faut...
Quelle modestie.
Quelle belle confession, surtout.
Et c'est vrai que pour une série, moi, qu'on m'avait vendue quand même comme un truc méga flippant et comme une série d'horreur, j'aurais aimé que ça me rentre un peu plus dedans, quoi.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé ça un peu long. Il y a 6 épisodes. C'est pas énorme, 6 épisodes, mais je pense que ça aurait pu être plus condensé, c'est-à-dire qu'il y a certaines répétitions, il y a certaines lourdeurs. Le dernier épisode, la fin est vraiment sublime. L'introduction est peut-être un peu longuette. On nous fait comprendre un peu trop lourdement que c'est un peu des ados américains comme les autres. Enfin voilà, il y a peut-être quelques facilités. La maison elle-même est sublime. Il y a des œuvres d'art vraiment dedans, des choses très intéressantes sur lesquelles je suis pas sûr d'avoir vraiment compris à quoi ça servait, outre nous montrer des choses un peu belles. C'est vraiment quand ils rentrent dans les pièces, qui jouent avec leurs peurs, leurs angoisses, leur passé, etc., que ça devient vraiment intéressant. Ceci étant dit, on ne l'a pas dit, le casting est assez impressionnant, mais les jeunes acteurs sont vraiment bons.
John Carlinge aussi.
Voilà, John Carlinge, qui est un type qu'on a souvent vu dans des trucs horrifiques, dont American Horror Story d'ailleurs, qui pourrait être comparé, mais qui pour moi n'a rien à voir, parce qu'American Horror Story, c'est du grand guignol et ça marche une fois sur 50.
Ah non, c'est l'opposé, ouais. Exact. Ah, c'est tout est dans la suggestion. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur la longueur, c'est la longueur qui pousse à la folie. Et si tu réduis cette série, ce côté où toi-même, spectateur, tu deviens fou au bout d'un moment, ne fonctionne pas.
C'est un bon argument. Mais c'est vrai. Merci. Que des fois, je me disais que ça pourrait être un tout petit peu moins tiré à la ligne. Mais peut-être que quand on arrive au terme de cette histoire-là, elle prend sens, cette durée. Mais pendant, j'avoue qu'il y a des fois où je me suis un peu emmerdé. Et qu'il y a certaines figures un peu horrifiques, un peu faciles, un peu convenues qui apparaissent. Il y a à un moment une sorte de labyrinthe. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont peut-être dispensables.
Oui, il y a des codes.
Voilà, il y a des codes qui sont pas indispensables à mon sens.
Oui, puis elle est quand même très esthétisante. On sent qu'elle aime se regarder comme série. C'est moi ce qui m'a gêné un peu, ce côté précieux.
Mais c'est une série sur l'art contemporain en même temps. Donc
Oui, c'est vrai que c'est une œuvre d'art. Oui, c'est intéressant.
Comme tu disais, Pierre, tu comprenais pas trop forcément certaines œuvres ou quoi dans la maison. Mais comme disait Charlotte, c'est une œuvre d'art, la maison. Donc forcément, et comme on comprend pas forcément tous là ou tous de la même manière, on prend la maison différemment.
Ce qui est sûr, c'est que en termes de série de maisons hantées, on tient quelque chose là de vraiment très intéressant et qui très certainement dit énormément de choses, et qui a un sous-texte très très lourd, et qui à la fin, je trouve, fait que c'est une très belle série, très émouvante, et d'ailleurs plus émouvante et troublante qu'à proprement parler flippante. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ça s'appelle donc Channel Zero, ça c'est le nom de l'anthologie, et la deuxième saison s'appelle No End House. Elle est encore visible sur SFR Play jusqu'au 4 janvier.
I was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. If there has been a crime, people want a guilty person. Rightly or wrongly does not matter.
And you've given up hope of being set free.
I saved my hopes for smaller matters.
I live in hopes of having a better breakfast tomorrow than I had today.
I'm a doctor. I work with the mind. It is not a question of your guilt or innocence that concerns me. I simply wish to know what you yourself can actually remember.
I've lost part of my memory entirely.
I hope sooner or later we will bring back your memory.
I'm not at all sure I want it back.
On change de genre, mais on reste à un certain niveau d'intensité psychologique avec Alias Grace, on dit la captive, je crois, en France. Mini-série canadienne adaptée d'un roman de Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, l'histoire de Grace Marks, une jeune immigrée irlandaise emprisonnée pour meurtre, qui rencontre un psychiatre chargé de déterminer si elle est innocente, coupable, folle ou saine d'esprit, je simplifie les choses. Eric, tu voulais défendre cette série, arrivée un peu dans l'ombre, il faut le dire, de The Handmaid's Tale, l'adaptation sérielle de La Servante écarlate.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Donc, c'est tiré d'un fait divers, il faut le dire, qui est arrivé au Canada et qui a beaucoup marqué, a priori, la population là-bas, parce que c'est une femme qui a été au départ condamnée à mort, puis finalement, ça a été commis en 30 ans de prison. Alors, la question n'est pas tellement de savoir si elle est coupable ou innocente. D'ailleurs, dans la bande-annonce là, qu'on a entendu, le psy le dit, ça m'intéresse pas de savoir si elle est coupable ou innocente, parce qu'on le sait dès le début, en fait. La question de savoir, c'est est-ce qu'elle a vraiment tout planifié elle-même, ou est-ce qu'elle a été aidée, etc. La question de savoir, c'est de savoir, quand on est à ce point-là asservi, est-ce qu'on a le droit de se révolter? En fait, c'est une série assez sur la lutte des classes, en fait, qui revient sur ces... Il y a beaucoup de thèmes qui sont communs à The Handmaid's Tale, la servitude, les servantes, etc. Et alors dans The Handmaid's Tale, clairement, le scénario prenait le parti de la révolte, tandis que là, dans cette série, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que la série interroge et dit est-ce qu'on a le droit ou pas de se révolter quand on est à ce point-là asservi.
Charlotte a fait des gros yeux quand elle a entendu que c'était plus subtil.
C'est un peu plus subtil, j'ai envie de casser la table. Mais sinon, ça va.
Elle est en super bois, hyper épais, donc tu veux. Faut vraiment que tu y ailles très fort. On appelle Chuck Norris dès que t'as fini, vas-y.
Ah, je peux le faire moi-même, mais il n'y a pas de
souci. Ok. Donc, Charlotte.
Non, moi, j'ai vraiment pas aimé. Ça me fend le cœur de ne pas avoir aimé parce que on parle pas assez souvent des femmes, on n'a pas assez souvent d'héroïnes au premier plan et que ça m'ennuie de ne pas être rentrée dedans. Je trouve que le système narratif, alors après j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas si c'est Margaret Atwood qui est venue avec ce système à la ZOA où en fait on nous raconte une histoire, il y a vraiment un côté assieds-toi, je vais te raconter l'histoire qui m'a éreintée, mais vraiment éreintée, une espèce de routine en fait. Dès que tu lances un épisode, tu connais déjà la structure narrative de cet épisode. Ça m'a saoulée.
Je suis pas du tout d'accord parce que justement il y a une structure narrative qui passe son temps à jouer sur le doute, à revenir en arrière, partir en avant, on sait jamais si elle ment vraiment, ce qu'elle dit, c'est toujours remis en cause. Je trouve pas que ce soit au contraire une structure très classique.
Moi je trouve que c'est faussement compliqué, et qu'en fait c'est juste brouillon. Tu vois, moi c'est le côté, bon je pense que ça spoil absolument rien, donc elle raconte son histoire à ce psy. Tous les moments où on va revenir sur sa vie, tous les flashbacks commencent par « je m'assieds avec mon psy et je vais vous raconter mon histoire », comme Zioé qui s'asseyait dans une baraque pour raconter son histoire. Je trouve que c'est hyper paresseux comme façon de faire.
Et parce que et c'est trop détective aussi, mais enfin, il y a beaucoup d'autres.
Ah
The Affair aussi, c'est ça.
Mais oui, mais c'est autrement gros.
Mais c'est un bon vieux procédé de narration, mais qu'on est d'accord qui peut être un peu lourdeau.
Bah, c'est lassant. Après, il n'y a pas 50 000 épisodes, donc ça va.
Il y en a 6, c'est ça, non ?
Il y en a 8, non ?
8 ? Je sais pas aller au bout.
C'est 6.
Bon. Alors, autant que Chanel Zéro, bah, vaut mieux regarder deux fois Chanel Zéro, je te le dis moi.
Romain, t'en as pensé quoi toi?
J'ai trouvé intéressant de raconter l'histoire d'une femme tueuse, parce que c'est assez rare au final à la télévision. On a Dexter, on a plein de personnages masculins tueurs. Donc c'était intéressant de raconter cette histoire-là centrée sur une femme. Et de cette façon-là, en plus c'est historique, explorer la psychologie du personnage. Mais je me suis fait chier devant. Enfin, j'ai pas vraiment accroché.
Alors finalement, je suis peut-être celui qui va le plus te défendre, Eric. Enfin, même si encore une, moi j'ai pas été. Alors c'est clair que je pense quand même que The Handmaid's Tale joue en première division, là où celle-là est peut-être dans la division d'en dessous. Mais il y a quelque chose moi que j'ai trouvé intéressant. Alors je suis pas allé jusqu'au bout de cette histoire, je dois l'avouer. Mais alors bon, d'une part, ça joue bien. J'ai juste halluciné de voir David Cronenberg qui joue un petit rôle là-dedans, c'est assez curieux de le voir jouer là-dedans. C'est Sarah Gadon, elle s'appelle l'actrice. Hein, j'écorche pas qu'on l'avait moi que j'avais découvert dans 22-11-63 pour parler de ce cher Steven qui s'invite dans toutes les émissions King. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé dans cette série. Encore une fois, j'aurais peut-être dû être plus curieux, aller jusqu'au bout pour voir comment c'était traité. Et c'est en ça qu'elle ressemble un peu à The Handmaid's, en tout cas qu'elle a une réflexion quant au regard de la société sur les femmes. C'est-à-dire que cette série parle aussi du regard que porte la société sur cette femme en particulier. Est-ce que c'est une folle au sens le plus méprisant du terme, c'est-à-dire une espèce de dingue, de névrosée? Est-ce que c'est une manipulatrice? En gros, ça joue sur la façon dont la société va classer les femmes dès qu'elles sont différentes ou dérangeantes, et que la société va se précipiter pour en faire des cas psychiatriques ou des dangers quand peut-être elles sont juste elles ont été victimes de quelque chose, ou quand elles ne correspondent pas à ce que la société attend d'elles. Et il y a peut-être quelque chose là que je trouve intéressant à creuser dans cette histoire.
Il y a quand même vraiment, pour moi, les thèmes sont très proches de Handmaid's Tale. Simplement, il y en a une, c'est une de la science-fiction, mais en fait les deux séries sont comme un miroir, c'est-à-dire qu'on à travers cette série, elle nous montre ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire avant, les femmes étaient oppressées, et quand elles se révoltaient, voilà ce qui est arrivé. On les mettait en prison, on les condamnait à mort. Et dans Handmaid's Tale, elle dit, attention, ça peut revenir. En fait, c'est un espèce de retour vers le passé, cette nouvelle oppression qu'il y aurait des femmes. Parce que c'est pareil, le fait que ce soit deux servantes, c'est pas un hasard. Qu'elles soient violées dans les deux cas, c'est pas un hasard. Et elle prévient en disant, regardez, dans Handmaid's Tale, c'est ce qui est arrivé, en fait, il y a deux siècles, il y a un siècle et demi, dans Alias Grace.
Les avis sont donc partagés sur Alias Grace, mais elle fait partie de notre sélection, donc soyez curieux, allez jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre avis, puisqu'Alias Grace est disponible sur Netflix.
You, Eleanor Shellstrop, are dead.
Cool. How did I die?
Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours.
Okay, I get it. Thank you.
You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death row.
You are my soulmate.
Cool. Bring it in, man.
You'll stand by my side no matter what, right?
Of course I will.
I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here.
Détendons un peu l'atmosphère avec une comédie américaine d'NBC, The Good Place, qui a fait son apparition sur Netflix chez nous à la rentrée, et dont la saison 2 est en cours de diffusion. The Good Place, l'histoire d'Eleanor Shellstrop, une jeune femme égoïste, bête et méchante, qui atterrit à sa mort dans ce qui semble être le paradis, The Good Place, le bon endroit. Une erreur d'aiguillage, ou un peu plus que ça. Romain, tu as tenu à en parler, mais attention, nous ne ferons pas de spoilers, puisque le but de cette émission est de donner envie à des gens qui n'ont pas vu la série. On va pas leur balancer les petites finesses scénaristiques qui émaillent son histoire. On t'écoute, Romain.
Donc oui, j'ai choisi The Good Place parce que c'était l'une des comédies qui m'a le plus enthousiasmé donc, la saison dernière, parce que c'est la saison 2 qui est arrivée, et elle est arrivée comme ça sur Netflix.
Ah oui, première saison d'un bloc, et puis un épisode après l'autre,
la saison 2. Par semaine pour la saison 2. Non, j'ai trouvé ça très drôle, le fait de suivre cette femme qui arrive au bon endroit, je crois que c'est ça, en version française, et qui n'a rien à y faire, en fait, parce qu'ils se sont trompés de personne. Et voir tout son chemin initiatique et son chemin pour essayer de partir de, non, pas de partir, mais tout ce chemin pour essayer de devenir la bonne personne qu'il pensait qu'elle l'était.
Bon, en tout cas, si s'améliorer, ouais.
Voilà. Et non, ce que j'aime, c'est le fait que la série arrive à se réinventer tout le temps, d'épisode en épisode et de saison en saison.
C'est donc, là qu'on ne dira pas plus.
Voilà, je ne dévoilerai rien de l'histoire, mais en gros, on suit vraiment Eleanor avec plein d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. On suit vraiment son histoire et ses interactions avec tous les autres. La saison 2 est différente. On suit vraiment un groupe, en fait. On explore d'autres relations, d'autres dynamismes, des relations qu'on avait juste effleurées en saison 1 et qu'on explore vraiment en saison 2. Et c'est ce renouvellement perpétuel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait que ce soit le créateur de Parks and Recreation qui ait créé cette
Mike
série,
Sure.
Voilà, n'est pas étranger à... Ça.
Alors moi, ça fait partie des séries que je ne suivais pas. Je suis allé rejeter un œil à ce que j'avais créé après le pilote et j'avais dit, ah, c'est sympa. Alors Kristen Bell, Je suis pas le plus grand fan de Kristen Bell, qui est une bonne actrice, mais que je trouvais peut-être un petit peu transparente. Son personnage me passionnait pas plus que ça. Bon, j'adore Ted Danson, qui est juste extraordinaire d'entrée de jeu, qui est un acteur comique extraordinaire. Est-ce que la série en fait, et là pareil, je pourrais pas rentrer dans le détail, c'est le problème de The Good Place, est hyper intéressant quant à l'évolution de sa propre carrière.
Bah, on le voyait déjà dans Born to Death, qu'il était très très drôle.
Oui, et puis il vient de Cheers, donc c'est un peu historiquement aussi, un acteur de comédie, et qui ensuite s'est tourné vers le drame. Moi, ce que j'aimais, c'était le potentiel de cette série, qui est une arène, comme on dit, qui est souple, puisque c'est un monde inventé complètement, et qui pouvait a priori s'amuser avec les codes de ce qu'on peut considérer comme le paradis, qui, comme on dit parfois en rigolant, il y a que les gens chiants qui y vont, et tous les gens cool, les stars du rock, etc., sont dans The Bad Place, sont dans l'endroit qui craint. Et pour ajouter une chose qui me plaisait assez, c'est que c'est une série comique, un peu légère, mais qui se laisse le droit d'être tout sauf moralisatrice, ça c'est intéressant, et puis quand même de faire un peu de philosophie. Alors un peu, mais c'est pas grave, il y en a quand même, et ça fait du bien d'avoir des personnages intelligents avec des enjeux intelligents et complexes dans une comédie qui somme toute n'est pas non plus d'une complexité inaccessible pour tous les publics, et c'est pour ça que j'ai commencé à suivre The Good Place. Et évidemment, avec ce qui se passe au bout de la saison 1, dont on dira pas plus, ça donne plus envie de réfléchir à la capacité qu'a cette série à se réinventer, comme tu disais très bien. Mais on sait tous que Charlotte, elle, a détesté. C'est parti, Charlotte.
Ah non, mais elle va se réinventer sans moi, cette série. C'est insupportable. Je crois que c'est ma définition de l'enfer. Tu vois, The Good Place, c'est ma définition de l'enfer sur Terre.
Ça tombe
bien. Tu veux
me
rendre taré, tu me mets devant cette série dans The Noen House, et c'est bon. C'est une catastrophe.
Mais t'aimes pas les Frozen Yogurt ?
Je déteste ça, les Frozen Yogurt. Je trouve que c'est une arnaque totale, comme cette série. On s'emmerde, c'est pas drôle. Il y a des virgules musicales à la Desperate Housewife toutes les 4 secondes pour nous indique que ça aurait été sympa de rigoler. Les couleurs des fringues, enfin, tout est superficiel. Alors, moi, je comprends que c'est un monde inventé, que c'est normal que tout soit superficiel, tout est en carton, tout est fake, mais je rentre dans rien. J'adore Kristen Bell, pour le coup, je la trouve nulle. Enfin, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut qu'on passe une heure pour que tu m'expliques mieux, parce que là, je suis perdue. Et Ted Danson, tout le monde adore Ted Danson, mais il est tout sauf rare, en fait. Donc je préfère vraiment aller le voir ailleurs, là, c'est pas possible.
On a oublié que c'était le chef des Experts il n'y a pas si longtemps. Moi, chaque fois je me rappelle, je fais merde, il a fait les Experts, Ted Danson.
Eh ben, il est tombé bien bas, et pourtant c'est pas où les Experts.
Eric, toi,
ça m'embête un peu, mais je suis plutôt d'accord avec Charlotte quand même.
Oh non.
Non, le problème principal, c'est vrai qu'il y a plein d'idées et tout, mais la série, elle est pas très drôle, quoi. C'est surtout ça, elle est pas marrante. Tu enlèves Ted Danson, il reste plus grand chose, quoi, à part des
idées. Mais je crois pas qu'elle se veuille hilarante. Oui.
Mais c'est dommage quand même pour une comédie de pas être drôle.
Maintenant les comédies c'est plus drôle, hein. Ça c'est tout le monde le sait.
Ouais,
ça se fait plus
mais,
les comédies
mais quand même,
drôles.
J'aurais aimé que ce soit un peu plus trash, un peu plus rentre dedans, qu'elle est censée être.
Est assez légère.
Elle est censée être au mauvais endroit. T'as envie qu'elle soit vraiment une nana méchante,
elle est au bon
etc.
Endroit. Ah oui, non, elle était censée y être.
Ouais, voilà. Vrai. Alors qu'en fait elle y est pas, mais on aimerait qu'elle soit vraiment méchante, qu'il y ait une raison. Alors qu'en fait elle a fait deux trois petites crasses comme tout le monde, mais elle.
Est... Moi je suis pas comme elle.
Non mais attends. Elle est pas vraiment méchante.
Non, c'est pas une criminelle. C'est pas. Oui, c'est pas une meurtrière, quoi.
Non, mais sans aller jusque-là, on voudrait vraiment qu'elle soit méchante et non, c'est ça reste assez poli finalement, ça reste assez gentillet, quoi.
C'est vrai que c'est gentillet, mais ça fait du bien les séries un peu gentillettes.
Il y a plein d'idées
dans cette série. Alors après, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est comme en revenir au bon vieux débat qu'on avait plus tôt dans ce mois. Ouais, attends l'épisode 8, tu verras, ça devient génial. Mais malheureusement, The Good Place, c'est un peu dans ces séries-là. Je pense qu'il faut être un peu patient et ça devient assez intéressant quand même ce qu'ils en ont fait. J'irais pas gueuler au chef-d'œuvre non plus, mais je pense que c'est une bonne comédie. Ouais, voilà.
Mais on n'a pas pris Chanel Zéro, t'es tombé là-dessus.
On est à 50-50 autour de cette table pour dire que, allez-y, vous aussi, faites-vous votre avis, puisque The Good Place est à suivre un épisode par semaine sur Netflix.
Vidal, c'est vous ? Vous êtes bien mécano ? Vous êtes sûr ?
Garage de l'Écluse, bonjour, Manon Vidal à votre service.
Regarde, tu travailles, tu gagnes ta vie honnêtement, tu te débrouilles toute seule. Tu crois que ça me rend pas heureuse?
Tu as 20 ans. Mais crois-moi, la vie, ta vie, quand tu peux la choisir, ça peut être formidable.
Tu me crois que tu vas pas te mettre en colère? Je voudrais que tu me donnes le numéro de mon père.
Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi tu as le numéro de ce salopard?
J'ai le droit, c'est mon père, tu l'as ou tu l'as pas?
Oublie, Manon. Tu vas droit dans le mur avec ça. Alors oublie.
Les pièces détachées, quand elles sont nazes, vous les rangez où?
Pourquoi tu veux savoir?
Comme ça, je me demandais.
Moi, en fait, j'aime pas qu'on traîne à l'atelier maintenant. On dirait que fouine.
Même si t'es mécano, t'es pas obligé tout le temps de tout réparer.
Les secrets dans une famille, c'est malsain.
Je suis sa fille.
Manon.
On referme cette émission avec une série française, C'est moi qui m'y colle, pas exactement une nouveauté puisque c'est une suite 3 ans après de 3 fois Manon, drame sur l'entrée en centre éducatif fermé de Manon, une adolescente violente, impulsive, détruite à petit feu par une mère toxique. Manon 20 ans, comme son titre l'indique, retrouve le personnage à 20 ans et la met en scène découvrant le monde du travail et s'ouvrant au plaisir de l'âge adulte, au désir, à des envies complexes et notamment à celle de retrouver son père. Je me fais une joie de vous recommander ces 3 nouveaux épisodes diffusés l'an dernier sur Arte, à voir dans la foulée de 3 fois Manon, tant qu'à faire. Pourquoi ? Parce qu'on voit peu de portraits aussi subtils à la télévision française, parce que c'est un récit intimiste qui n'est pas sans quelques lourdeurs, certes, mais qui met le doigt sur une foule de détails douloureux ou lumineux sur la jeunesse. Et parce que Manon, 20 ans, est portée par un casting formidable, Déborah François, Marina Foïs, Théo Cholbi, et surtout l'interprète de Manon, qui s'appelle Alba Gaïa Belougui, une jeune actrice à vif, instinctive, toujours juste, capable de moments de grâce. Il y a notamment une scène où elle joue la mouette de Tchekhov que je trouve absolument sublime dans cette nouvelle série, dans cette nouvelle saison. Bref, pour moi, une future grande actrice qui fait presque à elle seule une bonne raison de regarder Manon 20 ans, même s'il y en a beaucoup d'autres. Et même si je tiens à préciser, j'ai préféré 3 fois Manon à Manon 20 ans. Je trouvais Manon 20 ans un peu plus lourde, un peu plus didactique que 3 fois Manon. Mais les deux sont sur Netflix, donc vous pouvez voir les autres, les deux, et c'est à chaque fois 3 épisodes seulement. Donc à elle, tout entière, Manon fait une saison de 6 épisodes, ce qui est quand même pas monstrueux. Qu'en pensez-vous de Manon 20 ans, chers amis?
Déjà, pour qu'elle devienne une grande actrice, il faudrait qu'elle ait quand même 2-3 expressions, qu'elle n'ait pas la moue boudeuse pendant toute la série. Non, mais sinon, elle est pas mal dans ce rôle-là. Mais après, moi, c'est une série que j'avais vraiment envie d'aimer. Je trouve que c'est intéressant. En effet, c'est de la fiction du réel, comme on peut dire. Quelque part, ça peut faire penser un peu au film des frères Dardenne, à Ken Loach, etc. Sauf que ça n'a pas la puissance émotionnel des frères Dardenne ou du Ken Loach, c'est-à-dire que ça nous prend pas aux tripes, quoi. Il y a pas ce moment où on est vraiment bouleversé, où on a envie de casser la table, de tout foutre en l'air comme on peut.
Vous avez un truc avec le cassage de table. Hein.
En plus, elle est cool, hein, je sais pas pourquoi.
Et donc voilà, moi je trouve que c'est ça qui est dommage. Il y avait un film Divine, par exemple, qui m'a fait penser un peu à ça. Sauf qu'il y a une espèce de révolte dans Divine. Qui est en surface et qui, cette révolte, elle reste toujours contenue et jamais elle n'explose. Et on a envie que ça.
Dans 3 fois Manon, un peu plus quand même, hein. Mais ouais.
Oui, là, je parlais de Manon 20 ans.
Bien sûr.
Voilà. Donc, moi, je regrette que ça aille pas un peu, que ça nous prenne pas plus au trip, quoi. Maintenant, ça reste bien foutu, hein.
Moi, tout le monde sait que j'adore dire du mal, mais là, c'est mort, je ne peux pas. C'est magnifique. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, je sais pas, t'as pas de cœur, j'en sais rien, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais au niveau de l'émotion, c'est au contraire, moi, je trouve que c'est une grande, grande montagne russe d'émotions. Il y a une compréhension, ou en tout cas, une approche de l'âme humaine, de la douleur humaine, des sentiments, qui vient sûrement du fait que Jean-Xavier de Lestrade, le créateur, vient du documentaire et qu'il a suivi beaucoup de gens, notamment dans des procès, comme dans The Staircase ou Un coupable idéal, et qu'il a pris le temps de regarder les gens, de les regarder souffrir. Mais je trouve que la façon dont il le raconte, déjà, c'est très étonnant qu'un homme de son âge veuille raconter l'histoire de cette gamine déchirée, et quand elle a 20 ans, c'est toujours une gamine déchirée, et elle le sera sûrement encore pendant très longtemps. Moi, je suis impressionnée par cette série et hyper touchée.
Romain.
Je suis un peu d'accord avec Eric.
Oh, c'est pas vrai.
Non, top là, Charlotte, top là. Voilà.
Émotionnellement, je suis un peu passé à côté. Pourtant, tout est fait pour qu'on s'implique véritablement dans le parcours de Manon, que ce soit dans le récit intimiste, mais aussi dans la réalisation, parce que la mise en scène et les plans sont vraiment oppressants au final pour qu'on s'implique vraiment dans le truc.
C'est beaucoup de caméras à l'épaule, c'est très près, très très près des personnages.
Mais non, je suis un peu passé à côté. J'ai pas été ému par sa vie ou par ce qu'elle traverse.
Mais ça regarde The Good Place, eh ben.
Ouais.
Mais c'est intéressant de voir que finalement, voilà, on a été, il y a presque que sur No End House que tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'était une réussite. Les autres séries, on s'est pas mal divisé aujourd'hui. Reste que bon, allez, j'insiste quand même, allez jeter un coup d'œil, regardez 3 fois Manon, regardez Manon 20 ans, vous n'êtes pas obligé de laisser passer 3 ans entre les deux. Vous accepterez le fait qu'il y a eu 3 ans qui est passé entre ces deux triptyques. Il y a certes des défauts dans ces séries. série. Il y en a un peu plus dans Manon 20 ans que dans 3 fois Manon, mais il y a des scènes d'une intensité émotionnelle comme j'en vois quasiment jamais, voire jamais à la télévision française. Je pense en particulier à deux scènes de théâtre, finalement, dans 3 fois Manon, où il y a une improvisation entre deux gamines qui émet extraordinaire de violence émotionnelle, et cette scène où elle joue la mouette de Tchekhov dans Manon 20 ans, qui, encore une fois, Alba Gaya Belougi, je sais plus si on dit Belougi ou Belougi, elle m'excusera par avance, pour moi, si elle fait les bons choix et si elle tombe sur les bons réals, ça deviendra une très très grande actrice française. Ne la perdons pas de vue. 3 fois Manon et Manon 20 ans sont disponibles sur Netflix. C'était diffusé sur Arte en France et c'est à voir sur Netflix chez nous. Et on termine là-dessus ce 40e épisode de Un épisode et j'arrête. Piqûre de rappel pour vous inciter à voir, je répète, Channel Zero, Noen House, alias Grace, The Good Place et Manon 20 ans. Merci à Charlotte Bloom, Eric Bouche et Romain Chéron. Merci aussi à Jules Croc qui était à la technique aujourd'hui, aux équipes de notre partenaire Binge Audio et bien sûr à vous, le public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous offre pour Noël une émission en format long pour faire le bilan de l'année 2017 autour des séries repérées, retrouvées ou perdues. D'ici là, foncez sur les pages Twitter et Facebook de la CS et un épisode et j'arrête. Likez, followez, commentez à volonté. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.